I am your voice.
Nous sommes deux vieilles nations dans le monde.
Le Royaume-Uni et la France.
لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء
بالدم
تكون لعنة عليكم
نفديك يا أقصى
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها
بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم فهم لكم ولأولادكم.
Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Mariam Abdou pour vous accompagner au micro. Saif al-Islam al-Qaddafi, fils du dirigeant libyen déchu Mohammed al-Qaddafi, assassiné ce 3 février à Zenten, dans l'ouest libyen. 4 hommes armés masqués ont pris d'assaut sa maison, neutralisé le système de vidéosurveillance, puis l'ont abattu par balles avant de disparaître sans être identifiés. L'annonce de son décès a été relayée par ses conseillers politiques et proches sans que les autorités libyennes ne fournissent pour l'heure de version officielle détaillée. L'assassinat du fils cadet de l'ancien dirigeant libyen survient dans un contexte de profonde instabilité en Libye où des rivalités entre les milices et autorités concurrentes perdurent depuis la chute de Mouammar al-Qaddafi. Avec nous en ligne, monsieur Khaled Rouil, Saïd Khaled Rouil, shukran li hudurikum ma'ana. Khaled Rouil est conseiller aux affaires extérieures de l'Union des magistrats libyens, membre de l'équipe de défense liée à la famille al-Qaddafi. Saïd Khaled Rouil, awalan, ma hiya dourouf amaliyat l'irtiel. Monsieur Khaled Rouil, dans quelles conditions a été assassiné Saïf al-Islam al-Qaddafi?
L'assassinat s'est déroulé dans des circonstances obscures. À présent, les enquêtes sont en cours auprès du bureau du procureur général et les enregistrements des caméras ont été examinés. Les investigations se poursuivent et nous attendons encore les résultats de l'enquête sur les circonstances de cet acte lâche et brutal.
تم اقتحام المكان من طرف 4 مسلحين ملتمين في منطقة حمادة جنوب زنتن ولكن معظم الكاميرات تم قطع خط الاتصال في التسجيل هل من معلومات إضافية في هذا المجال؟
Les caméras n'ont pas cessé d'enregistrer. Elles sont entre les mains du ministère public. Les enregistrements ont été analysés. Un groupe d'individus cagoulés a ainsi pu être identifié. Les recherches se poursuivent afin d'identifier précisément les personnes impliquées dans cet assassinat. Le procureur général libyen l'a déclaré explicitement. Ces caméras sont opérationnelles. Les procédures sont en cours, notamment la prise d'empreintes sur le corps de la victime. Nous attendons donc l'aboutissement de l'enquête avant de publier tout communiqué officiel.
كان سيف الإسلام القذافي محتجزا في زنتن منذ إطلاق سراحه عام 2017 هل للاغتيال أي علاقة مع الانتخابات التي كان ينظم لها سيد خالد غويلة؟
Il est devenu une épine profondément enfoncée pour tous les traîtres et les agents qui sont venus en Libye et pour tous ceux qui se sont opposés au processus électoral, notamment depuis sa candidature à la présidentielle libyenne. Le projet ne s'arrête pas à une personne et ne s'éteint pas avec elle. Son rêve était de bâtir une Libye sans armes, débarrassée des milices, des formations armées et des gangs. Mais telle est la volonté d'Allah, la mort est une, même si les causes sont multiples, le projet, lui, ne s'est pas arrêté. La volonté appartient désormais aux Libyens, il leur revient de décider de qui conduira la prochaine étape. Au fait, nous n'accusons personne, nous qualifions simplement cet acte de trahison et de perfidie, nous respectons l'autorité du procureur général et le déroulement des enquêtes. Lorsque celles-ci seront parachevées, nous saurons qui se cache derrière cette trahison et tout viendra à point, n'est-ce pas ?
طلب الفريق السياسي التحقيق محلي ودولي مستقل لماذا؟
نعم احنا شوفي احنا لا اولا احنا نثق في التحقيق المحلي في مكتب النائب العام.
Tout d'abord nous avons confiance dans l'enquête locale menée par le procureur général Intec en ce sens qu'il a dépêché 4 enquêteurs dès la première nuit. Les investigations sont menées, les caméras examinées, le dossier est entre ses mains. Nous respectons l'indépendance de notre justice avant d'évoquer toute intervention extérieure.
سيد خالد رويل أذكر استسمحك باللغة الفرنسية طبعا. Je rappelle que vous êtes avocat et juriste libyen, conseiller aux affaires extérieures de l'Union des magistrats libyens, membre de l'équipe de défense de la famille del Qaddafi. سيد خالد رويل منذ بضعة أيام تم لقاء في باريس قد جمع بين مختلف الأطراف السياسية الليبية. هل ترون بأن هنالك علاقة ما بين هذا اللقاء واغتيال سيف القذافي؟
Écoutez, madame, je vais essayer d'être raisonnable. Nous ne pouvons accuser qui que ce soit sans disposer de preuves. Nous saurons qui est le coupable de cette affaire et c'est alors que nous en parlerons. Mais aujourd'hui, il n'est pas possible de désigner un coupable. L'accusation serait tellement grave et complexe.
مفهوم. كيف يكون تأثير هذا الاغتيال على ليبيا وعلى المنطقة بالأجمل؟
Cela n'arrêtera pas le projet. L'homme est mort, oui, mais le projet est toujours vivant. La patrie persiste. Les mains nationales sont là, le projet continue et c'est nous qui changerons la feuille de route de la Libye. Aujourd'hui, il nous incombe de sauver la patrie. Voilà l'essentiel.
سيد خالد رويل شكرا جزيلا لحضوركم معنا. شكرا سيدي. Khaled Rouil est avocat et juriste libyen, conseiller aux affaires extérieures de l'Union des magistrats libyens, membre de l'équipe de défense liée à la famille d'Al Qaddafi.
عملية مقتل سيف الإسلام القذافي ما نشاهده الآن من أخبار عاجلة تقول أن عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في مقر إقامته في الزنتان تمت بعد تعطيل كاميرات المراقبة.
سيف الإسلام القذافي fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Gaddafi est assassiné le 3 février du mois en cours à Zinten, dans l'ouest de la Libye. Un commando de 4 hommes masqués a pris d'assaut sa résidence. Le procureur général libyen lance une enquête avec des équipes médico-légales. Des témoins sont interrogés, mais les motifs et les identités des tueurs restent inconnus.
Le parquet libyen a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour tenter d'identifier et retrouver les 4 suspects du commando qui l'a assassiné.
Islam Qaddafi vivait en résidence surveillée à Zinten depuis sa libération en 2017 par la milice locale Abu Bakr Sadiq, sans rôle gouvernemental officiel. Il s'est repositionné comme figure d'opposition potentielle, proposant en 2022 des initiatives pour résoudre la crise libyenne via des élections inclusives ou un retrait collectif des figures actuelles.
Le fils de Muammar Gaddafi est mort. Saif al-Islam a été tué hier soir par un commando de 4 personnes chez lui à Zinten, dans le nord-ouest de la Libye. L'homme âgé de 53 ans avait déposé sa candidature à la présidentielle il y a quelques années.
En 2021, Saif al-Islam al-Qaddafi se présente à l'élection présidentielle libyenne. D'abord rejeté, puis rétabli par la justice avant l'annulation du scrutin. Il critiquait ouvertement les gouvernements rivaux et plaidait pour la reconstruction et la stabilité, tout en maintenant des contacts avec des tribus et alliés comme les Zinten Brigades, un comeback en 2025 avec des alliances tribales et ambitions de leadership national étaient évoquées, mais sans confirmation publique majeure. Avec nous en ligne, Cheikh Ali Misbah Bousbiha, rattaché à la tribu des Hassawiyya du Fezzen et président du Haut Conseil des tribus du Fezzen. Cheikh Ali Misbah Bousbiha, shukran li hudurikum ma'ana. Monsieur Bousbiha, les conditions de l'assassinat demeurent obscures. Sayyid Ali Misbah Bousbiha, tamma ikhtiyal Saif al-Islam al-Qaddafi an tariq al-ghadr, hadha ma yuqal.
Oui, bien sûr. Il a été assassiné par traîtrise. Il était accompagné d'un proche dans la résidence où il se trouvait. Il jeûnait ce jour-là et l'heure de l'iftar approchait. Son compagnon est sorti lui chercher le repas de rupture du jeûne, le laissant donc seul. Et là, on leur dit qu'il allait prendre de l'air, faire un peu d'exercice avant le coucher de soleil, dans le jardin, bien entendu. Et c'est là que 4 individus cagoulés sont rentrés. Aujourd'hui, nous attendons les résultats de l'enquête et ce que révéleront les caméras de surveillance afin de déterminer précisément les circonstances de cet assassinat.
سيد بوسبيحة لكم دورا رئيسيا كرئيس فريق المصالحة التابع لسيف الإسلام القذافي في حملته الرئاسية مع التركيز على لم الشمل، كيف يكون تأثير هذا الاغتيال على عملية لم الشمل القبلي والوطني طبعا؟
لا شك انه حتاثر تاثير كبير جدا لانه
il ne fait aucun doute que son absence aura un impact extrêmement fort. C'était comme je vous l'ai dit un point de convergence, un dénominateur commun entre de nombreuses composantes du peuple libyen. Je suis moi-même membre de ce dialogue et nous continuerons à avancer selon le même programme. Il s'agit sans doute d'un projet de réconciliation nationale, de rassemblement du peuple libyen, de recherche de points communs pour fédérer les Libyens et les sortir du statu quo dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Mais la perte du docteur à ce stade précis est lourde de conséquences.
من هي الأطراف التي لها مصلحة في اغتيال سيف الإسلام؟
Il est évident que de nombreuses parties avaient intérêt à voir disparaître le docteur Saif al-Islam de la scène politique. Beaucoup de personnes, notamment des candidats à la présidence de l'État, considéraient qu'il constituait un obstacle majeur à la mise en œuvre de leur projet en Libye. En réalité, tous sont suspects. Nous ne pouvons disculper aucune partie, aucune des forces qui auraient pu tirer profit de sa disparition et de son éviction de la scène politique. Nous ne pouvons innocenter personne, qu'il s'agisse d'acteurs internes ou externes non plus. Il est certain que des parties étrangères existent, mais elles ne peuvent agir directement qu'à travers des relais locaux.
سيف الإسلام القذافي منع أكثر من مرة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية على وجه الخصوص. منع سيف الإسلام القذافي في المشاركة في أي انتخابات مهما كانت وخاصة الانتخابات الرئاسية.
ما فيه سبب وجيه قانوني يمنع من الترشح.
Il n'existe aucun motif juridique valable qui l'empêchait de se porter candidat, et c'est précisément là toute la difficulté. Ils ont tenté, autant que possible d'ailleurs, de l'écarter de la course électorale sans y parvenir. Même en 2021, lorsque la commission électorale l'a exclu, le tribunal de première instance, puis celui de deuxième instance, l'ont réintégré dans la course présidentielle, faute de fondement légal justifiant son exclusion. Lorsque, par la suite, la mission a suspendu les candidatures pour cause de force majeure, nous savons tous que, pour eux, il incarnait cette force majeure. Il représentait une source d'inquiétude pour tous ceux qui cherchaient à s'accaparer la Libye, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est pourquoi il a été pris pour cible de cette manière et dans ces circonstances. Dès lors, toutes les parties qui souhaitaient l'écarter de la scène politique deviennent suspectes dans son assassinat. Pour notre part, nous ne cherchons qu'une seule chose, la légitimité. Une légitimité acquise par la victoire électorale. Car une fois la légitimité obtenue, toutes les parties, y compris celles de la région occidentale, auraient dû se placer sous l'autorité du pouvoir légitime élu par l'ensemble du peuple libyen. Nous ne cherchions pas le chaos, nous cherchions la légitimité, que la légitimité à travers les urnes.
سيد بوسبيحة شكرا جزيلا سيدي لحضوركم معنا شكرا ألف شكر
بارك الله فيكم
وفيك بركة شكرا Cheikh Ali Misbah Abou Sbiha est une figure tribale majeure du sud de la Libye. Il est rattaché à la tribu des Hassawiya du Fezzen. Il occupe le poste de président du Haut Conseil des tribus du Fezzen.
Je suis prêt à communiquer avec tout le monde sans distinction, à faire abstraction de tous les différents. Nous espérons élargir le cercle de la participation à toutes les parties actives de la société civile. Notre position est claire, soutenir les élections et dire non aux périodes transitoires pour sécuriser l'opération électorale et préparer le pays à l'accueillir.
15 ans après la mort de Mohamed Gheddafi, l'assassinat de Saif al-Islam marque un tournant majeur en Libye et va certainement avoir des conséquences sur l'avenir du processus politique dans le pays. La réconciliation nationale libyenne apparaît comme la première victime de l'exécution de Saif al-Islam, déjà fragile. Réunir les Libyens dans un dialogue s'avère quasiment impossible. Pas moins de 7 envoyés spéciaux onusiens ont échoué jusqu'ici, dénonçant le peu de volonté des partis au pouvoir de s'impliquer dans cette réconciliation.
Plus que quelques semaines avant le vote officiel et la tension monte entre factions. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Yann Koubis, a jeté l'éponge. Mais de nombreux Libyens veulent tout de même croire à la tenue des élections.
Les puissances étrangères n'ont pas joué un rôle direct dans le retour politique récent de Saif al-Islam Gheddafi, limité à Zinten depuis 2017. Mais des rapports multiples soulignent des soutiens discrets ainsi que des oppositions actives. Des oppositions telles que celles des États-Unis, de la France, de la Turquie ou encore des Émirats Arabes Unis qui s'opposaient fermement à son retour. Son assassinat simplifie le paysage pour un axe orienté.
Sa candidature était controversée et contestée et finalement il est disqualifié à cause de sa condamnation. Les disputes ensuite font effondrer le processus électoral et le vote n'a pas lieu. Très discret, il vivait seul en Libye et sortait très peu pour des raisons de sécurité.
Pour l'heure, aucune revendication ni piste publique sur les motifs ou commanditaires de l'assassinat n'est avancée. Les autorités appellent à la retenue pour éviter l'escalade. Le président du Haut Conseil d'État, Mohamed Menfi, insiste sur l'attente des résultats. Avec nous en ligne, Mohamed Abdeslam al-Gheddafi, ancien haut gradé dans l'armée libyenne sous Mohamed al-Gheddafi. Sayyid Mohamed Abdeslam al-Gheddafi, shukran li hudurikum ma'ana. Monsieur Mohamed Abdeslam al-Gheddafi, est-ce que vous êtes arrivé à des résultats probants aujourd'hui? Quelles sont les informations supplémentaires dont vous disposez? Sayyid Mohamed Abdeslam al-Gheddafi, هل التحقيق توصل إلى أي معلومة إضافية وحاسمة؟
Tout d'abord, par respect, par considération pour le peuple algérien, et sans avoir eu à consulter personne, nous avons accepté de nous exprimer sur les ondes de votre radio et de nous adresser à votre honorable personne. Madame, à ce stade, les informations restent préliminaires. L'État a mis en place une enquête et le dossier suit son cours juridique. Aucune information définitive n'a pour l'instant été communiquée. Vous savez que le monde arabe est aujourd'hui la cible de complot et que tous les hommes libres sont exposés, menacés, parfois assassinés dans une volonté de domination de cette nation par des forces rétrogrades. L'Occident a bien entendu ses propres calculs. Mais en toute sincérité, je ne peux pas à présent vous fournir des informations précises ni vous dire qui sont les auteurs de cette agression car l'affaire est toujours entre les mains de la justice. Le parquet mène l'enquête. Ceci dit, il est possible que dans les deux prochaines jours ou au cours de la semaine prochaine, les résultats de l'enquête commencent à apparaître. Mais vous voyez que les complots sont puissants, vastes et bien plus importants que la taille de cette tribu. Cela fait 15 ans qu'il vivait parmi eux, comme un frère, comme un ami, et qu'il l'avait réellement protégé. Cependant, vous savez, les méthodes d'assassinat et les moyens de conspiration sont devenus sophistiqués, plus précis, et nous ne pouvons pas déterminer avec exactitude la méthode utilisée, ni les circonstances exact. C'est à la justice et au parquet général qu'il revient d'établir la vérité dans le respect, bien entendu, du secret de l'instruction. En vérité, la trahison et la perfidie dont il a été victime relèvent d'un complot impliquant plusieurs parties. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des partisans de l'ancien régime et des opposants, et que ce conflit est une réalité. Saif al-Islam est considéré comme une figure de premier plan, jouissant d'une large popularité. Ceux qui ont comploté peuvent être issus de ces camps, tout comme l'Occident qui le perçoit également comme un représentant de l'ancien régime. La vérité est que nous ne pouvons désigner aucun auteur avec certitude, ni affirmer si les conspirateurs sont occidentaux ou orientaux, internes ou externes. Les informations demeurent sensibles.
هل الخلفية نعم نعم تمام هل الخلفية سياسية أم أمنية سيد قذافي؟
والله لا شك أنا على مستوى رأيي. En toute sincérité et à mon humble avis seulement, je pense que l'assassinat est motivé par des raisons politiques. Saif al-Islam a été assassiné pour des considérations politiques et non pour des raisons sécuritaires.
سيد القذافي، أنتم من قبيلة القذافة، كيف سيكون رد قبيلة القذافة على هذا الاغتيال؟
والله قبيلة القذافة إلى حد الآن هي.
À ce jour, la tribu des Qdadfa est encore sous le choc de l'assassinat. La tribu se réunira, mais nous vivons d'une manière ou d'une autre dans le cadre d'un État, et l'État a ses procédures et ses méthodes, non? Jusqu'à présent, nous nous sommes réunis pour les démarches liées à l'inhumation. Ensuite, chaque chose viendra en son temps. Je ne peux pas anticiper les événements, ni vous dire dès maintenant quelles décisions seront prises ou quelles actions seront engagées. Mais, pour l'instant, nous vivons d'une façon ou d'une autre sous l'autorité d'un État, et l'État dispose de ses règles et de son mode d'action.
سيد القذافي شكرا.
شكرا شكرا بارك الله فيك، تحياتنا للشعب الجزائري.
فيك بركة، شكرا. L'assassinat de Saif al-Islam al-Qaddafi plonge la Libye dans une nouvelle incertitude politique et sécuritaire et risque de raviver les tensions intercommunautaires et de briser le processus de paix précaire. Cet assassinat intervient dans un contexte de fortes divisions mettant en péril les tentatives de réconciliation nationale et la tenue d'élections libres et équitables. Avec nous en ligne, Monsieur Andrea Cellino, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes vice-président et responsable de l'Afrique du Nord au Middle East Institute, Switzerland. Monsieur Andrea Cellino, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Vous avez une expertise approfondie sur la Libye, où vous avez géré des opérations de réforme du secteur de la sécurité. Votre travail porte sur la gouvernance sécuritaire post-conflit, la stabilisation et les institutions fragiles. Monsieur Cellino, en Libye, quels sont les principaux obstacles qui font barrage et empêchent la stabilisation, aussi bien politique que sécuritaire?
Surtout, il y a des obstacles de nature politique, c'est-à-dire que pour toute une série de raisons, suite à la chute ou le renversement du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye se n'est pas développée en une gouvernance unitaire, mais la réalité actuelle, c'est une profonde fracture politique qui est la principale raison du manque de progrès, une stabilisation du pays, accompagnée par la prolifération de groupes armés non étatiques qui exercent un contrôle territorial inégal en absence d'une structure militaire ou sécuritaire nationale unifiée.
Monsieur Andrea Cellino, les défis actuels, comme vous l'indiquiez à l'instant, sont la fragmentation armée, l'impasse politique et la fragilité post-cessez-le-feu. Comment, j'interroge votre expérience, comment dépasser ces entraves? Est-ce que la Libye aujourd'hui a les éléments ou les outils nécessaires pour dépasser ces entraves?
Comme vous le dites, que ce soit les Libyens eux-mêmes qui prennent en main leur futur politique, mais malheureusement, vu la fragmentation politique et aussi un autre facteur que je n'ai pas encore mentionné et qui est l'ingérence, l'influence de certains acteurs régionaux et internationaux.
Oui.
Ce qui serait souhaitable en ce moment, ce serait justement que le processus que les Nations Unies, en particulier de Smil, a lancé en décembre 2025 un dialogue structuré pour arriver à des élections présidentielles et parlementaires ait succès. Bien sûr, il y a beaucoup de doutes et beaucoup d'obstacles qui se présentent pour ce processus, mais le soutien assez robuste des pays membres du Conseil de sécurité ainsi que de l'Union européenne, c'est fondamental pour aider ce processus qui est tout d'abord politique, partant de ce dialogue structuré qui a été lancé, comme je l'ai dit, au mois de décembre,
oui,
et qui a plusieurs volets sécuritaires, économiques, mais qui devrait aboutir à la tenue des élections en 2026.
Alors, vous avez parlé du processus politique. Ce processus politique est-il stoppé net par des freins? sécuritaire. Nous pouvons citer, vous l'avez évoqué, Monsieur Andrea Cellino, vous avez évoqué l'année 2025. En 2025, il eut l'assassinat de Abdelghani El-Kikli, surnommé Gniwa, chef influent du soutien rapide. Ceci a conduit à des affrontements inter-libyens. En oui. Libye, cette semaine, il eut l'assassinat de Saif al-Islam al-Qaddafi. Est-ce que ces facteurs oui. sécuritaires n'influent pas directement sur le politique ou sur le processus politique?
Bien sûr, tous ces facteurs que vous avez nombrés ont une influence directe. Donc, mais les défis sécuritaires sont une conséquence des défis politiques. C'est l'absence d'une volonté politique et aussi des intérêts représentants politiques
oui.
à maintenir un certain statu quo. Voilà leur réticence à avancer rapidement sur un processus qui conduise à de nouvelles élections. Donc, tous les incidents et les violences qui se sont répétées, ainsi que l'assassinat fils de Kadhafi cette semaine,
oui.
sont un reflet de cette fragmentation sécuritaire et d'une absence de volonté politique à vraiment changer les choses.
Est-ce qu'il y a en ce sens une forme, on va dire, d'interventionnisme extérieur qui pousse au pourrissement de la situation?
Je ne veux pas mettre la faute exclusivement sur les influences extérieures. Il y a aussi des responsabilités occidentales dans la dégénérescence de la situation en Libye. À partir de la focalisation de la part de l'Union européenne sur les problèmes de migration, qu'à partir de 2015, on conditionnait l'action de l'Union européenne et l'action, par conséquence, des principaux pays occidentaux. Mais c'est vrai que toutes les factions, et principalement les deux gouvernements, celui de Tripoli, qui est reconnu par les Nations Unies, mmh. et celui à l'Est, sous le contrôle du maréchal Haftar, jouissent d'un certain appui de différentes puissances étrangères. Et donc, ça aussi, c'est un élément qui représente un obstacle pour avancer dans le processus de dialogue structuré qui est principalement politique et qui devrait conduire aux élections. Il y a des éléments positifs néanmoins, comme par exemple le fait que dans les 12 derniers mois, la Haute Commission nationale pour les élections a réussi à organiser des élections municipales, à peu près 90 conseils municipaux. C'était le point positif qui a convaincu la mission des Nations Unies et plusieurs acteurs internationaux que ça valait la peine de lancer un processus plus robuste
oui.
pour arriver à des élections.
J'allais rajouter, oui, Monsieur André Cellino, j'allais rajouter oui. que plusieurs envoyés spéciaux ont tout de même, compte tenu de la difficulté ou des entraves rencontrées, jeté l'éponge tour à tour, hein.
Bien sûr, et ça c'était exactement le résultat du fait que les divisions au niveau international entre les différents pays qui étaient intéressés, qui étaient impliqués dans le post-conflit en Libye, n'ont pas donné le soutien nécessaire aux Nations Unies et aux différents envoyés spéciaux du secrétaire général pour vraiment avancer dans cette unification des institutions. Maintenant, comme j'essayais de dire tout à l'heure,
oui.
moi je suis encore personnellement assez sceptique que les élections soient la solution 100% sûre pour faire avancer la situation en Libye. Ça c'est la réalité et de l'engagement politique de différents acteurs internationaux.
Mmh.
Bien sûr, ça peut arriver à l'organisation de vraies élections, mais ça ce n'est pas une garantie que au-delà d'une fragmentation aussi institutionnelle qui est devenue profonde dans le pays, les élections soient la solution qui va tout d'un coup générer un consensus national.
C'est ça. Donc au-delà des élections qui sont reportées de façon successive, quelle serait la solution?
Écoutez, je noterai qu'on a fait plusieurs tentatives aussi dans certains programmes dans lesquels j'étais impliqué, d'essayer d'affronter la situation de la fragmentation sécuritaire. C'est-à-dire un processus qui, en anglais, normalement, est dénommé DDR,
oui.
désarmement,
développement,
de développement et réinsertion,
oui,
différents groupes armés et des partis. Parce que ça, là, c'est un problème qui est non seulement sécuritaire, mais économique. C'est-à-dire la prolifération des armes, la prolifération des groupes armés doit être adressée de façon prioritaire, parce que sans une réforme du secteur sécuritaire, ça sera très difficile que les élections portent à une solution de façon nationale.
Monsieur André Acellino, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci infiniment, Monsieur André Acellino.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
André Acellino est expert en matière de gouvernance dans le secteur sécuritaire, Flow responsable de l'Afrique du Nord au Middle East Institute of Switzerland. Et il était avec nous à partir de Genève. Les États-Unis et l'Iran tiennent ce vendredi à Mascate des discussions directes qui s'annoncent tendues et marquées par la méfiance. Du côté américain, Steve Witkoff, envoyé spécial de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient, devrait y participer, rejoint par Jared Kushner, gendre du président Donald Trump et figure politique influente dans les précédentes négociations régionales. L'Iran sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avec le soutien direct du président iranien, sous la supervision attentive du guide suprême Ali Khamenei. Avec nous en ligne, Eli Jamani, analyste politique, observateur de la scène iranienne. Monsieur Eli Jamani, merci d'avoir accepté notre invitation. De quoi sera-t-il question à Mascat, monsieur Eli Jamani? Mais avant de répondre à cette première tranche de questions, avez-vous des éléments d'information au sujet du changement de lieu, du lieu de la rencontre? La rencontre, précisons-le, devait se tenir en Turquie.
Premièrement, l'Oman a toujours été le lieu de rencontre entre les Américains et les Iraniens. Et c'est là que l'accord nucléaire du JCPOA a été né. Et ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que le président Donald Trump voulait amener aussi des ministres des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, du Koweït, du Bahreïn, des Émirats. C'est-à-dire un ensemble de pays qui, pour l'Iran, ne sont pas très à faveur de la puissance iranienne dans le Moyen-Orient. Mmh. C'est pour cela que l'Oman a toujours eu une position plus neutre. Et pour cela, l'Iran préfère l'Oman. Maintenant, pour la première partie de votre question,
oui,
cette rencontre, je pense, est une opportunité, mais c'est une opportunité où il doit y avoir un pourparler équilibré. C'est-à-dire, si les Américains demandent plus de malléabilité envers le dossier nucléaire, il demande à l'Iran de délivrer les 441 kilos d'uranium de 60%, d'arrêter peut-être l'enrichissement d'uranium pour une certaine période, et ça c'est faisable. Mmh. Mais s'il demande à l'Iran de cesser le programme des missiles balistiques, ça n'est jamais aboutir à une conclusion positive.
Monsieur Eli Jamani, il est indiqué par ailleurs que les Iraniens sont ouverts et prêts à communiquer avec la partie américaine. Les autorités iraniennes ont présenté leur programme de missiles balistiques comme une ligne rouge. Jusqu'où peut aller Téhéran dans ces négociations? Et qu'exige Téhéran des parties concernées par ces négociations, justement?
Alors, il faut savoir que l'Iran a commencé à l'enrichissement d'uranium au-delà des 20% quand le président Donald Trump, en 2018, est sorti de l'accord nucléaire. Et c'est là que l'Iran a commencé, un an après cette position américaine, d'augmenter le pourcentage de l'uranium. Mm-hmm. Pour l'Iran, les 120%, ça ne sert à rien s'ils veulent pas faire la bombe atomique. Et c'est pour cela que l'Iran peut donner ce qu'elle veut pas faire. Et peut donner aussi l'excès d'uranium à la Russie, à la Chine, sous le contrôle international. Pour l'Iran, c'est normal de le faire, mais à condition,
oui,
de la levée des sanctions. Il y a plus de 8500 sanctions sur l'Iran. Maintenant, si l'Iran délivre son programme missile, c'est-à-dire devient comme la Syrie, le lendemain, Israël va commencer à bombarder l'Iran du nord au sud et détruire toutes les capacités de l'Iran qui sont des capacités où l'Iran se sent protégé. L'Iran, c'est une ligne rouge qu'elle ne peut pas dépasser, c'est-à-dire elle se soumet à Israël et aux Américains. Maintenant, la demande des missiles, ce n'est pas une demande américaine, c'est une demande israélienne.
C'est juste.
C'est ce que Benjamin Netanyahu veut, mais Donald Trump, pour obtenir cette concession, il doit faire la guerre à l'Iran, et cette guerre n'a aucun résultat sûr.
Les tensions restent tout de même palpables, Monsieur Elie Jamanier, principalement dans la région. L'armée américaine a abattu mardi un drone iranien au-dessus de la mer d'Oman, tandis que des bateaux iraniens se sont approchés d'un navire battant pavillon américain dans le détroit d'Ormuz. Des manœuvres militaires entre l'Iran et la Chine sont organisées de façon quasi irrégulière. Est-ce que ces paramètres de tension sont un facteur utilisé lors de négociations de Amman?
Pour Donald Trump, c'est très important d'envoyer les bateaux et la flotte américaine. Sinon, il n'a aucun élément de pression sur les Iraniens pour dire qu'il est sérieux par ses menaces. Mais des menaces, c'est une chose, et aller à la guerre, c'est une autre. Maintenant, la Chine, la Russie et l'Iran exécutent des manœuvres dans la région parce qu'il y a un message de la Russie et de la Chine qui sont contre la guerre contre l'Iran. Et pour la Chine et la Russie, c'est pas quelque chose qu'ils souhaitent, surtout qu'ils ont fourni à l'Iran après juin 2025, quand Israël et les Américains ont bombardé l'Iran, tous les éléments nécessaires pour une protection électronique, pour des antidéfenses des missiles très avancés, et aussi pour un contrôle électronique qui sort ou qui arrive de l'Iran et vient en Iran. Ce stade a permis à l'Iran de contrôler les derniers événements qui se sont produits localement, et ils ont pu mettre en lumière leur capacité très avancée. Maintenant, pour les Américains, pour abattre un drone iranien dans les eaux internationaux, ça c'est normal, parce que l'Iran a aussi abattu plusieurs drones américains dans les dernières années, et ça n'aboutit pas à augmenter la tension.
Voilà.
Et ce qu'on voit aujourd'hui, que les pays arabes du Golfe ne veulent pas être mêlés par une guerre qui n'est pas la leur. Et si les Américains n'ont pas la possibilité d'utiliser les bases dans les pays du Golfe, ils ne peuvent pas aboutir dans leur guerre, parce que la flotte américaine n'a pas les missiles adéquats pour faire un changement de régime iranien.
Alors, vous dites que les pays arabes du Golfe ne veulent pas participer à une guerre qui n'est pas la leur. Toutefois, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, les Émirats arabes sont également conviés par Washington à assister à la rencontre, ou en tout cas à la réunion de Amman. Comment expliquer ce paradoxe? Sont-ils contraints d'assister à cette rencontre?
C'est une excellente question. Alors, il y a deux côtés. Les pays du Golfe ont toujours eu peur de l'Iran et ses capacités des missiles, et aussi des alliés dans la région, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, l'Irak et le Yémen, Ansarullah. Pour cela, pour les pays arabes, c'est pas une mauvaise idée de voir l'Iran plutôt faible, pas assez forte comme elle l'est aujourd'hui. Mais d'autre part, ils veulent pas faire part de cette guerre parce que l'Iran a dit clairement qu'elle va bombarder toutes les bases militaires américaines qui se trouvent au Koweït, Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite, partout dans les pays autour de l'Iran. Pour ça, les conséquences sont beaucoup plus graves pour les pays arabes que avoir vraiment une Iran faible. Il y aura d'autres moyens pour eux pour affaiblir l'Iran, qui est déjà faible économiquement, mais pas militairement. C'est que cela, ils peuvent attendre.
Ces intérêts américains sont pris pour cible dans des pays arabes environnants, et donc une pierre de coups. Les intérêts américains d'une part, et les territoires arabes environnants d'autre part.
C'est ça, c'est correct. C'est pour cela, on ne voit pas une guerre qui est vraiment confirmée. On voit que Trump hésite. Il hésite parce que il sait que c'est lui qui va perdre dans ses bases militaires, où il y a entre 30 000 et 40 000 soldats. Les Israéliens vont être bombardés, mais ils peuvent accepter ces dégâts collatéraux qu'ils appellent, si l'Iran est détruit ou bien il y a un changement de régime, mais le changement de régime n'est pas à faveur des États-Unis parce qu'il y a 7 pays qui entourent l'Iran qui vont entrer où il y aura un chaos total.
C'est ça.
Et c'est pour cela que pour Israël, c'est le scénario idéal pour les Américains. Ce n'est pas parce qu'il y a leur intérêt dans le Moyen-Orient et dans l'Asie qui sont en jeu.
Monsieur Elie Chamani, l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, devraient participer au pourparler avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. De quoi sera-t-il question et quelles sont les propositions que devra faire le ministre des Affaires étrangères iranien aux Américains et vice-versa?
Je pense que le ministre des Affaires iraniennes, Abbas Araghchi, va proposer à Witkoff et à Kushner de faire un plan pour les discussions. C'est le premier pas. Les Iraniens ont beaucoup de patience. Et Donald Trump n'a aucune patience. Pour Steve Witkoff et Jared Kushner, ils veulent des résultats. L'Iran est dispo pour leur donner des résultats en ce qui concerne le dossier nucléaire, oui, mais conditionné par la levée des sanctions. Maintenant, ce sont les Américains qui doivent fournir des garanties où il n'y a aucune confiance entre les deux parties. C'est pour cela que les accords sont faits, par manque de confiance. Maintenant, comment ces confiances seront matérialisées? C'est déjà la réponse que c'est une première réunion de dizaines autres qui vont poursuivre pour arriver à un but ou bien à un nouveau accord nucléaire.
Monsieur Elie Chamani, en dehors de cette rencontre, permettez-moi de vous poser cette question. De multiples réseaux ont été démantelés à l'intérieur de l'Iran, notamment à Téhéran. Des réseaux d'espionnage liés à l'entité sioniste. Pouvez-vous nous donner des informations ou avez-vous des informations sur ce sujet, monsieur Elie Chamani? De quels éléments sont constitués ces réseaux? Sont-ils uniquement israéliens ou appartiennent-ils à d'autres pays alliés d'Israël?
C'est une très bonne question parce que l'Iran a toujours eu des problèmes dans le nord-est et dans le sud. On parle de Kurdistan, Irak, et on parle de Sistan, Baluchistan dans le sud.
Oui.
Pour cela, ces deux zones ont toujours été un point de départ pour des attaques contre les institutions iraniennes. Mais ce que j'ai dit juste au début, les Chinois ont fourni aux Iraniens de l'équipement très avancé. Pour cela, on a vu que les Iraniens ont pu confisquer 40 000 terminaux de Starlink. C'est un terminal qui a toujours été jugé comme impénétrable. Alors, les Iraniens ont pu arriver à une solution de savoir où arrive la transmission et la réception. Et pour cela, ils ont arrêté des milliers d'Iraniens entraînés par le Mossad. Déjà, les Israéliens ont donné des interviews des Iraniens afghans qui travaillent avec eux, des interviews live en masquant le visage de la personne. Les Israéliens ont reconnu qu'ils sont sur le terrain. Et ce qu'on a vu en Iran, c'était vraiment pour la première fois, on a vu que l'Iran a agi sur ces groupes en seulement 48 heures. Ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'était des vidéos qui sont sorties après, mais pas pendant les attaques iraniennes contre ces groupes. Et ce sont des groupes très bien organisés, mais qui sont réussis à tuer 3175 officiers iraniens et des civils. On a vu aussi une organisation très particulière de la part des Iraniens, qui ont appris beaucoup de la guerre de juin, quand la région a été le théâtre d'une guerre israélo-américaine de 12 jours.
Oui.
Et ils ont compris où il y a des points faibles dans leur pays, où il y avait on fabriquait des drones à l'intérieur de l'Iran.
Oui.
Il y avait une organisation vraiment très particulière qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est pour cela que l'Iran a compris les points faibles et a essayé de les couvrir et d'agir très rapidement.
Monsieur Elie Chamani, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Elie Chamani.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Elie Chamani, correspondant de guerre, analyste politique, spécialisé dans les affaires du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Ouest, de l'Afrique et de l'Europe. Il est également conseiller auprès de rapporteurs européens sur l'Irak et analyste militaire. participer à ce programme, Elie Jamani, analyste politique. André Acelino, vice-président et responsable de l'Afrique du Nord au Middle East Institute, Switzerland. Cheikh Ali Misbah Bousbiha, rattaché à la tribu des Hassawiyah, président du Haut Conseil des tribus du Fazen. Mohamed Abd Slam al-Qaddafi, ancien haut gradé dans l'armée libyenne, sous Mohamed al-Qaddafi. Khaled Roui, le conseiller aux affaires juridiques de l'Union des magistrats libyens, membre de l'équipe de défense liée à la famille d'Al-Qaddafi. L'histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.